CRCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle série. Salut les filles,
bonjour,
ça va?
Bonjour Annabelle.
Et aujourd'hui, oh Mathilde, t'as changé de place.
Oui.
Nous sommes déstabilisées, mais c'était pour faire place au couple. Quoi, mais non, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour Annabelle.
Bonjour ouais. Pasteur Marcel. Bonjour, bonjour Sandra. Bonjour. Alors, le pasteur Marcel, quoi, mais non, t'es déjà venu sur notre plateau. On avait
ouais,
fait une série sur la
ouais.
femme. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Madame Kwame Nant. Waouh, on est vraiment bénis.
Elle me fait rougir.
Oh, c'est pas grave, ça passe bien à la caméra. Donc, toute cette semaine, en fait, c'est toi notre invitée, Sandra. Nous allons voir la femme qui est au service de Dieu et tu vas pouvoir nous partager finalement ton expérience de vie. Et puis, tu es venue accompagnée de ton mari.
Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il était quand même préférable et plus adéquat qu'à une émission de femmes, que je vienne avec ma femme pour vous l'introduire et puis aussi pour que vous l'écoutiez plus, vous l'entendez. Même moi, je suis là aujourd'hui pour que ce qui est en elle puisse sortir aussi.
Ah, mais merci, pasteur. Vous avez entendu, cher mari, un mari qui envoie sa femme au milieu de paroles de femme. Donc aujourd'hui, on va parler, mais tous les deux, vous allez pouvoir nous raconter votre rencontre, la rencontre du couple Kwame Nant, comment ça s'est passé, on va voir, parce que vous avez quand même un parcours atypique. Aujourd'hui, vous avez presque 400 églises, c'est ça, un peu partout dans le monde. Vous voyagez énormément. Combien de fois par semaine?
Il arrive
semaine.
Que je fasse 3-4 fois par semaine.
Donc, c'est sûr, c'est toute une vie différente. Alors, comment s'est passé votre rencontre? Est-ce que vous étiez prêt à ça? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes mariés?
Ça fait 18 ans.
Ouais, 18
ans cette année.
Ouais, 2000, hein. Okay. Septembre 2000 à peu près. Donc, on part sur les 18 ans. Et comment se rencontrer, c'est un peu particulier. Hein. Déjà, je pense que peut-être les femmes retiennent bien les précisions. Mais
bah, vous dites les grandes lignes.
C'est sûr.
Et moi, je détaille.
Je sais que moi, j'avais une équipe avec laquelle on tournait un peu en Europe, dans plusieurs régions d'Europe et même plus loin. On faisait les programmes et j'avais... pour faire les évangélisations, les conférences. Voilà. Et puis, elle était pianiste dans l'équipe. Alors, chose bizarre, bon, j'aurais jamais imaginé que j'allais me marier avec elle. Je priais pour qu'elle se marie. Je priais pour que moi aussi, je puisse aussi me marier dans mon coin. Et puis après, j'avais peur du mariage. Enfin, bref, par définition. Et un jour, je crois qu'au retour d'une mission, il y a des choses qui sont passées dans mon cœur. Bon... J'étais dans une phase d'observation, de confiance, aussi d'orientation. Et je me suis rendu compte qu'il ne faut pas regarder trop loin ou s'attendre à trop loin que la promesse de Dieu, de la vie, de ma vie, en fait, était
là, juste
à côté
là,
de moi.
Sous vos yeux.
Voilà, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je pense qu'on revenait de Londres. C'est voilà, un an avant, un an plus tôt, 8 mois à peu près, en 99. Et puis autour de ça.
Et toi aussi, voilà. tu l'avais.
Oui, en fait, je tournais avec lui, je l'accompagnais, je jouais pendant qu'il prêchait, et avec toute une équipe. Et puis, ben, on a fait un petit peu connaissance comme ça. Mais ça restait toujours en tout bien, je dirais tout honneur. Et un jour, il m'a fait une déclaration. Il m'a écrit une lettre.
Wow.
Et une belle lettre que je me suis d'ailleurs empressée de jeter. C'était l'hiver, je l'ai jetée à la cheminée.
Wow.
Parce qu'en fait, j'ai été tellement impressionnée. C'était vraiment une belle lettre, mais j'étais impressionnée parce que j'ai pris un petit peu peur, connaissant le ministère et ce que ça représente et l'implication que représente la vie dans le ministère et la vie dans le ministère en tant qu'épouse, puisque mon père est pasteur, donc j'ai pu voir évoluer qu'est-ce que le ministère. Et donc, j'ai eu un petit peu peur. Donc, suite à cette déclaration, je lui ai dit, ben, non.
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 Tu lui as dit que tu avais jeté la lettre dans le feu?
Oui, je ne sais pas si je lui ai dit tout de suite.
Ça, ça s'appelle un râteau.
Ah, ouais, c'était non, l'hiver, non. C'était l'hiver. À ma
distance,
c'était l'hiver. La cheminée était là.
Et mais donc, toi, t'envisageais avant d'épouser un serviteur de Dieu ou
j'avais pas fait. Vraiment... Non, moi, j'aimais le Seigneur vraiment de tout mon cœur. Je voulais le servir. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas hésité quand il m'a demandé de l'accompagner et de jouer avec lui et avec son équipe. Et j'avais vraiment à cœur de servir Dieu. De quelle manière? Je sais pas. Dieu a un plan pour chacun. Donc, j'avais pas fait de projet particulier, mais c'est vrai que j'avais pas forcément planifié ou demandé à Dieu un ministère. Et encore moins un ministère international ou d'une autre culture. Enfin bref, voilà, j'avais pas... Voilà. Et quand il m'a fait sa demande, oui, j'ai été vraiment... j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur et je me suis dit, waouh, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je veux ça?
Ouais. Et vous, vous l'avez bien vécu, le râteau?
Et en fait, comme j'étais un peu dans un ministère un peu plus large et international... Et à première vue, je me suis dit, mais attends, elle se prend pour qui, cette fille? L'orgueil de l'homme, hein, parce que j'ai un peu mal pris, tout ce que je veux. Mais en même temps, je me suis dit, ah, au moins, elle sait ce qu'elle veut. C'est clair. Et du coup, j'avais décidé de dire, OK, comme on se rencontre, on travaille. J'ai dit, bon, sauf que je vais me mettre à genoux et en tout cas, dans les mois qui suivent, je bâtirai ma vie. Voilà, donc je fais le point avec l'équipe, j'ai respecté son choix. Et voilà, et le jour, j'ai dit à toute l'équipe, j'ai dit voilà, on va continuer à se voir, on va continuer à faire le ministère, le travail. Mais elle aussi, hein, j'ai dit voilà, je suis en prière et que, en tout cas, je vais prier pour. Tout le monde a compris que je veux vraiment avoir un discernement, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de. Parce que connaissant les couples, priant aussi pour les mariages. Et puis, officiant les mariages, je voyais les galères qui sont dans le mariage. Donc, j'avais peur de me marier avec quelqu'un qui allait me faire des complications, possessives, jalouse, tout le temps. Vous voyez, donc, je me suis dit, bon. Et quand ils ont compris ça, après, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai dit, alors, c'est pour qui cette fille? C'est l'agression, c'est l'orgueil de l'homme. Hein. Je l'ai dit, je l'ai déjà témoigné. Je me suis dit, mais non, bon, je vais me marier, de toute façon, mais bon. J'ai dit, oui, Seigneur, que... tu me brises. Hein, quand même.
C'est vrai, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été pris à la légère. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi dans notre situation. Et puis, un jour, je m'en souviens, il m'a dit, bon, écoute, OK, tu ne veux pas, mais moi, sache que je veux bâtir ma vie. Avec toi ou sans toi, je vais prier le Seigneur pour me donner une faille. Je veux un foyer. J'aspire à un foyer. Et il m'a dit un jour, ben voilà, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je m'en vais. L'équipe avec laquelle on travaille, ça s'arrête là. Je vais changer. Enfin, voilà, il avait des projets. Et ce jour-là, vraiment dans ma tête, ça a été un bouleversement. Et je me suis dit non, je ne pouvais pas m'imaginer ne plus le voir, ne plus être avec lui. J'ai compris vraiment que j'avais les sentiments en fait se sont révélés. Et je me suis dit, ok, je payerai. Je connais l'implication qu'il y a en tant qu'épouse dans le ministère. Je sais qu'est-ce qui m'attend, mais je m'y engage. Je fais ce choix. Je m'y engage. Mais je préfère ça que être sans lui, voilà. Donc je suis allée le voir.
Ah oui, c'est toi qui es allée le voir.
Et c'est moi qui suis allée le voir en lui demandant de bien vouloir réouvrir le sujet.
Et de te faire
regarder près de lui.
Et qu'est-ce que j'ai dit alors?
Oui, c'est ce qu'on pourrait ouvrir le dossier.
Alors, voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit alors?
Eh bien, il ne voulait pas trop. Il faisait semblant de ne pas comprendre.
Deuxième râteau.
Il faisait un peu semblant de ne pas comprendre. Je comprends quand même que ça a pu le blesser. Hein. J'ai compris quand même que ça a pu le blesser quand je lui ai dit non. Mais je crois que lui aussi, après, il ne pouvait pas rester sans moi. Donc finalement, merci. Voilà.
Il a juste profité de ce petit moment où tu revenais.
Ouais, je pense qu'on a fait un petit jeu de... Voilà, un petit jeu cache-cache d'amour. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que... C'est tellement peut-être qu'elle m'aimait plus fort. Et en fait, moi, à un moment donné, c'était, vous savez, je le dis, il n'y a pas de mystère. Mon orgueil d'homme avait pris un coup. D'autant plus que, vous voyez, dans un contexte, Marseille, à gauche, à droite, Marseille, je me suis dit, mais bon. Et quand elle est revenue après, elle m'a dit, bon, j'ai réfléchi. Mais c'est ça aussi qui m'a touchée. Elle a dit, en fait, j'avais dit non. Parce que je voulais d'abord être sûre de la responsabilité qui m'implique. J'ai des sentiments pour toi, c'est vrai, mais je voulais être sûre la responsabilité. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Mmh. On n'a pas de problème majeur. On a une petite fille de 3 ans, quelques mois. On est heureux. Et elle est vraiment une... moi, je ne crois pas à l'histoire que ma femme est simplement une aide. Elle est complémentaire. Mmh. Elle fait... On est équipe. Mmh. On fait une force de frappe. On n'est pas pareil, c'est clair. Mmh. Et qu'on arrête de, tout de suite de croire et de stigmatiser en disant « Oui, ils se ressemblent, ils sont si. » C'est pas vrai. On est tous différents, mais on se complète. Alors, si on se ressemble, peut-être dans un contexte ministériel, des responsabilités, mais on se complète. Et franchement, j'ai vu que je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui sans ma femme. Mm-hmm. Je n'aurais pas réussi certaines choses sans ma femme. Et elle n'aurait pas été cette femme avec la responsabilité assumée d'être avec un mari hyper occupé et hyper... pris de partout et aussi qui est livré aux gens. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que quand tu es dans le ministère, dans le foyer, tu as envie de partager tout avec ta femme et ton mari. Mais dans notre cas, en fait, c'est vrai, on a le temps personnel, privé, intime, okay, familial. Mais le ministère, c'est se donner aux autres. Le ministère, c'est toujours avec les gens. Donc, cette réflexion qu'il y a eu et cette base qui a été l'élément clé de notre mariage, à consolider notre relation et à produire le fruit dans lequel aujourd'hui on peut ainsi se réjouir et accompagner et encourager. Donc,
mais quand on fréquente un garçon, enfin pour une femme là je parle, un garçon et qu'on, en tout cas qu'on convoite un garçon qui est appelé au ministère, faut vraiment s'y prendre, vraiment prendre du temps dans la prière, parce que c'est plus que de construire un couple, hein, c'est construire un ministère. Et il y a beaucoup de filles qui sont un peu, des fois, éblouies par le ministère. Ça n'a pas été le cas de Sandra, parce qu'elle savait à quoi elle s'attend, à quoi il fallait s'attendre. Mais il y a peut-être des filles qui se font éblouir par le prestige du ministère et qui n'ont pas mesuré la responsabilité que ça représentait. Donc, vraiment, s'il y a des filles qui nous écoutent puis qui convoitent peut-être un beau garçon, un beau jeune homme qui est appelé au ministère, ben, ouais, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut prier. Et puis, prendre du temps de recul en disant « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, retire-le de mon cœur. » Parce que...
Au risque de froisser monsieur.
Au risque de le froisser, qu'il se prenne un râteau. Il vaut mieux se prendre un gentil petit râteau qu'un gros râteau 10 ans plus tard.
Ouais, donc,
C'est un impératif de prendre du temps dans la prière.
C'était très sage.
En fait, je pense quand même, j'ai eu cette grâce que mes parents, étant dans le ministère, je savais les implications qui pouvaient être exigées de moi, le devoir que ça représente, le bonheur aussi, hein, attention, que ça représente. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup. Grâce à ça, j'ai quand même su que voilà, il fallait vraiment que ce soit une réflexion... C'est important.
Mais il y a quand même des clichés du mariage qui sont tombés ou que tu as dû réapprendre à voir le mariage différemment, parce que comme on l'a dit, c'était un mariage et un parcours vraiment atypique et tu t'y attendais dans une certaine mesure, mais est-ce que tu as quand même été un peu surprise?
Ben, à partir du moment où je me suis mariée donc avec mon mari qui n'était pas du tout ce que j'avais pu concevoir. Bon, c'est vrai que j'avais pas trop d'aspirations quand j'étais jeune fille, hein, je dirais, de j'aimerais me marier avec tel type de personne ou telle chose. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus imaginé que je me marierais avec une personne qui serait d'une autre culture, qui viendrait d'un autre pays. Ça, c'est vrai que c'était aussi important. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai complètement tout laissé à plat et j'ai pris les choses comme elles venaient. Voilà, ça a été un apprentissage. De toute façon, c'est un apprentissage à deux, hein, je pense, le mariage. Et petit à petit, c'est vraiment d'année en année que je dirais, on est devenu une équipe. On a appris à se connaître, à connaître les faiblesses et les forces de l'autre, et les défauts et les qualités. Et c'est comme ça qu'on devient complice, qu'on devient une équipe. Donc moi, vraiment, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé de côté, et puis j'ai pris les choses comme elles se sont présentées, puisque de toute façon. Rien ne s'est présenté comme j'aurais pu l'imaginer. Alors, tant qu'à faire, voilà.
On repart avec une carte blanche.
Voilà, une carte blanche, tout à fait. Ouais.
Et au niveau de la culture, est-ce que ça a été quand même un petit peu compliqué de s'ajuster l'un avec l'autre? Parce que, en fait, vous, Pasteur Marcel, vous êtes d'origine ivoirienne. mais vous avez vécu en Suisse, en Europe. Maintenant, vous vivez aux Antilles. Donc, en un seul homme, vous êtes totalement international, vous tout seul. Donc là, tu as épousé le monde entier, Sandra. Parce que comment t'as pu réussir à te faire à cette culture multiculturelle?
Mais en fait, moi, je me suis dit que c'est une richesse. Déjà, mon mari est de Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais il est complètement international. Il a une capacité de se fondre dans les cultures et de s'adapter aux cultures. Et il prend de bonnes choses aussi de chaque culture. Il en apprend et il s'enrichit avec ça. Et moi, j'ai fait en fait cette même démarche. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé formidable de pouvoir apprendre toutes les choses que la Côte d'Ivoire avait à apprendre. Puis ensuite, c'est vrai qu'on a emménagé dans les Antilles, qui est aussi une autre culture. Mm-hmm. Donc, j'ai vu ça plutôt comme une richesse. Alors, c'est sûr que c'est un apprentissage qui n'est pas toujours facile parce qu'on fait des erreurs. Mais voilà, je me suis plongée dedans et puis j'ai essayé d'apprendre, même si on ne réussit pas toujours. Mais voilà, faire de mon mieux pour...
C'était facile et parce que c'était graduel peut-être ou c'était graduel, j'imagine?
Oh, j'ai pris les choses comme elles venaient.
Ouais.
Les choses petit à petit. Il m'a beaucoup aidée. Je lui demandais des fois, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Okay. Ou des fois, il me disait, non, tu sais, ça ne se fait pas. Chez toi, ça se fait. Mais ici, ça ne se fait pas. Des choses qui paraissent bonnes. Par exemple, je suis de France. Donc, des choses qui paraissent bonnes en France ne se font pas dans ce pays-là ou en Côte d'Ivoire. Et petit à petit, comme ça, j'ai appris au fur et à mesure.
Et pour vous aussi, Pasteur Marcel, est-ce que la culture, ça a été un apprentissage ou... Vous, vu que vous étiez déjà un peu baigné dans la culture européenne, ça a peut-être été plus facile?
Non, la culture, elle est sur plusieurs niveaux. Il y a l'approche, il y a le langage, il y a l'alimentation, il y a aussi le quotidien. Un exemple que j'ai eu du mal, mais que j'ai adopté tout de suite, mais ça m'a aidé même avant, d'ailleurs, que je me marie avec ma femme, c'est quand j'ai vécu en Suisse, l'horaire. Vous savez, nous qui venons d'Afrique, on est très un peu élastique en horaire. Ça, c'est le premier point. Et au niveau alimentation, on n'aime pas trop fromage, lait, des choses comme ça. Ensuite, le froid, on n'aime pas trop, voilà. Moi, je viens au Canada, ma prière, c'est peut-être qu'il n'y ait pas de neige du tout. Après, je pense à ma femme et ma fille, bon, donc je n'ai pas osé trop m'exprimer, mais bon, ça ne me dérange pas trop.
Bon, voilà, vous voyez, ces gens.
Voilà, bizarrement, voilà. Donc, c'est très bien. Enfin, je ne dis pas ça à haute voix. Donc, quelque part, voilà, la culture, en fait, moi, je l'ai prise comme une valeur. D'autant plus que j'ai baigné dedans, j'ai eu des parents qui ont vécu aussi en Europe et qui ont toujours été. En Europe, donc moi j'ai grandi. Pour moi, la conception du foyer, c'est la diversité est une richesse énorme, justement. Et ça fait qu'on apprend, on découvre, et puis on se complète. Voilà. Donc pour moi, c'était une grande grâce, une grande joie de voir. Vous voyez, il y a 5 doigts, mais les 5 doigts sont complètement différents, mais ça forme la main. Donc aujourd'hui, dans notre couple, c'est ça qui fait la beauté de la chose, quoi.
Et juste après votre mariage, vous avez pris un congé sabbatique de mariage ou alors est-ce que la mission...
Ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, j'avais préconisé avec ma femme. On a fait une semaine déjà de...
De jeûne et prière.
Non. Je m'attendais pas à ça.
De stand-by de noces déjà. 7 jours au sud de la France. Je me rappelle dans une petite ville d'ailleurs, au sud de la France, non loin de Marseille, quelque part là-bas, je ne sais plus. Et ensuite, j'avais dans mon... Parce que moi, j'étais tellement occupée dans le ministère que quand on s'est marié, c'est comme si j'ai attendu tout petit peu, j'ai fait une petite pause. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'avais prévu 6 mois à 1 an de temps sabbatique. Et en fait, c'est là que l'histoire... Mon pied a été fracturé, et puis du pied est né tout le bouleversement d'église, de création, de mise en place et du ministère apostolique. Voilà, en gros. Et c'est donc on a essayé après de trouver des temps de vacances un peu très restreints. Et ça, dans le ministère, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais je trouve une femme que Dieu m'a donnée que... formidable parce que voyageant, j'étais un peu inquiet aussi au départ, aussi pour me marier, parce que quand je me dis, mais je vais voyager, je vais faire le ministère, comment ça se passait? Donc, et elle, elle venait avec moi, mais on n'a pas tous les mêmes endurances. Donc, il y a des moments où elle ne peut pas forcément voyager avec moi, mais elle était à la maison. Elle aimait aussi, elle est très casanière, ma femme. Voilà, donc, il faut, elle est sur place, il faut lui demander, hein, parce qu'il faut que tu t'exprimes aussi, madame. Et c'est vrai que tu disais quelque chose, Anne, tout à l'heure, que le ministère, les gens sont souvent séduits par l'onction, éblouis par un peu tout l'éclat qui entoure le grand ou le petit ou le moyen ministère. Mais le ministère, c'est une totale responsabilité. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. C'est une grande charge. Et ne pas être avec le bon mari ou ne pas être avec la bonne épouse qu'il faut, ça devient complètement de la complication. Et dans notre cas, je rends grâce à Dieu parce que ma femme, elle regarde. C'est vrai qu'elle n'aime pas être en avant. Moi, j'essaie de pousser un peu. Je prends un exemple, j'ai formé des équipes de ministère, y compris elle. Mais je consacrais les gens dans le ministère et elle me disait, je sais que tu attends que les choses avancent, mais je veux encore prendre plus de temps. Vous voyez, on est mariés en 2000, je commençais sa formation un an après, 6 mois après. J'ai eu le temps de consacrer les gens 4 ans après de formation et elle, c'est seulement en 2015. Qu'elle était prête à rentrer dans le ministère comme pasteur. Voilà. Oui, c'est parce qu'elle aime prendre son temps et voilà, parce que pour elle c'est très important et ça c'est une grâce. Quoi.
Mais disons que je pense que j'ai conscience du poids de la responsabilité. Peut-être que j'exagère dans le souci de vouloir bien faire. Peut-être que je veux tellement trop bien faire, trop me préparer que j'exagère. C'est peut-être possible. C'est pour ça que des fois c'est bien parce qu'il me il me pousse un petit peu, il me secoue un petit peu pour ne pas rester dans cette éternelle préparation. À un moment donné, il faut avancer.
Amen.
Mais c'est vrai que oui, le ministère, c'est une grande responsabilité. Mm-hmm. Et c'est important de, s'il y a des jeunes filles qui, effectivement, comme tu disais, aspirent, ont des sentiments pour des personnes dans le ministère, vraiment, de prendre le temps de bien prier, de prendre le temps de peser le poids de cette responsabilité. Et à partir du moment où elle s'engage vraiment de se tenir dans cet engagement et de c'est tous les jours qu'il faut demander la force au Seigneur pour pouvoir continuer à tenir cet engagement parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile mais Dieu donne la force et il est fidèle.
Puis c'est un grand atout sur la longue durée parce que quand on a pris du temps pour prier que vraiment c'est de Dieu que vient la conviction qu'on est bien avec la bonne personne et que c'est aussi notre appel d'être dans le ministère. Quand il y aura des temps plus difficiles où la pression sera plus forte, on tiendra ferme. Parce que si on s'est marié sans avoir pris ce temps, le jour où il y aura du vent contraire, ça va être beaucoup plus difficile de tenir ferme. Parce qu'on n'aura pas cette profonde motivation, cette conviction qu'on est bien à la place que Dieu voulait pour nous.
C'est ça le mariage, dans le fond, l'union, c'est le fruit d'une conviction. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, Pasteur Marcel. Il ne faut pas être séduit par l'onction que des fois peut transporter l'homme de Dieu. Dans mon cas, ouais, il y a vraiment l'homme de Dieu. Quand j'ai rencontré mon mari, ça m'a beaucoup plu l'homme de Dieu qu'il était. Mais en fait, c'est ça, c'était réfléchi aussi pour moi. J'avais les mêmes craintes probablement que toi, Sandra, par rapport au fait de la responsabilité, de l'engagement, d'être vraiment en couple dans ce ministère et je voulais pas m'engager à l'aveuglette. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en considération et mettre en prière avant de marier un homme de Dieu. Parce que c'est ça, quand les vents contraires viennent, il faut juste être tellement certain, mais vraiment certain qu'on est appelés ensemble, qu'on va être juste inébranlable. Et puis vous reflétez
ça. Et une chose qui est importante, c'est que dans la vie normale, commune, on a des critères pour se marier. Déjà, on aime la personne. Deuxièmement, on a des affinités avec la personne. Troisièmement, on est prêt à s'engager pour bâtir ensemble. Voilà. Sauf que dans le ministère, ces trois critères ne suffisent pas. Il faut, en plus de ces trois critères, accepter de partager le temps que vous avez, un espace de ton mari avec les autres.
Oui.
Yeah, parce que si, ça, c'est une réalité. Et un autre point aussi qu'il faut aussi tenir compte, c'est aussi donner de soi pour faire cette complémentarité ministérielle.
C'est ça.
Et un troisième point qui fait à la fin presque six, il y en a au moins 12 points à peu près. c'est d'accepter que d'être aussi dans le mariage demain un modèle pour les autres. Mm-hmm. Donc ça veut dire que tu payes le prix pour des choses que tu aimes et tu fais des choses même quand tu n'aimes pas.
Oui.
Parce que tu as appelé aussi à jouer ce rôle. Et puis, un élément que je voulais quand même rajouter, c'est dans le ministère, on devient un personnage public, mm-hmm. qu'on le veut ou non.
Ah, oui.
Un personnage public. Et dans notre cas, tu vois, on se retrouve à des programmes d'une personne, de 10 à 100, à 1000, à 20, 30, 100 000, j'en sais rien, ou même plus. Et en plus, à différents endroits. Donc, notre vie devient systématiquement une inspiration, un modèle, un encouragement, une aspiration. Inspiration et aspiration pour d'autres. Mm-hmm. Donc, si on n'a pas ces éléments, il vaut mieux encore réfléchir. Et puis, il ne faut pas, oui, un coup de foudre.
Mm-hmm.
Dans la responsabilité ministérielle en termes d'équilibre de foyer, ça ne tient pas du tout. Et ça ne sert à rien et ça ne va pas durer.
Mais cela dit, quand on est une jeune fille de 20 ans ou de 25 ans,
ouais.
on n'a pas non plus toute notre formation de fête et on n'a pas tout le kit, hein, toute la trousse de secours. Ouais. On n'est pas encore la femme accomplie qu'on va devenir. Donc, des fois même, on est jeune convertie, comme ça a été mon cas, par exemple. Et il ne faut pas non plus se baser juste sur nos talents présents ou nos capacités présentes, mais sur la conviction, vraiment, que c'est Dieu qui nous place là et pas... le coup de foudre ou le cœur qui papillonne.
Notre disposition de cœur aussi. Comme Sandra le disait, j'ai pris comme ça venait. Tout était comme totalement différent à tout ce que j'avais imaginé. Et d'être prête à mettre ça sur le tapis puis à dire, Seigneur, je te laisse encore une fois toute ma vie, y compris le mariage et les clichés qu'on peut avoir, les aspirations qu'on peut avoir, des aspirations qu'à la fois qui sont humaines. Et Dieu veut remplacer ces aspirations par des aspirations célestes qui vont être différentes. Et si nos aspirations change, il y a des frustrations qui n'auront plus lieu d'être en fait. Et vraiment, vous êtes inspirant, vous êtes mystérieux mais inspirant.
Ah bon, merci. Avec Jean, à cette occasion, je peux te dire, je t'aime ma femme.
Oh, oh. Enregistré. Donc, nous allons nous quitter sur cette déclaration du pasteur Marcel à sa femme. Et on se retrouve demain, nous serons encore avec le couple Quoi Maintenant. Et nous parlerons du service, comment Sandra a réussi à trouver sa place dans le service. Parce que comme le pasteur l'a dit, il voyage 3-4 fois par semaine et Sandra est très casania. Donc, comment trouver un équilibre? Comment trouver un épanouissement? C'est possible et elle nous le dira demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.